Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Peut-être pour bien comprendre, physiologiquement, c'est ton genou qui est bloqué. Tu peux encore plier la cheville et tu as encore de la maîtrise sur ta cheville, sur ton bassin.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, moi j'ai la mobilité de ma cheville totalement. Je peux exactement tout bouger. Je peux tourner ma cheville, mon pied. J'ai vraiment tous mes muscles, on va dire, au niveau du mollet et des releveurs. Après, j'ai mon genou qui est bloqué, du coup, donc en extension.
C'est vraiment l'articulation qui est bloquée, quoi.
Voilà, c'est ça. Et vu comme j'ai plus de cartilage, les os sont soudés. Et après, niveau quadri, forcément, c'est quand même plus faible que ma jambe droite.
Ça s'affaiblit, mais tu peux toujours l'activer, quoi.
Je peux contracter, après faire grossir mon muscle sur ma cuisse. Non, parce que forcément, il faut de l'articulation et il faut de la flexion pour faire grossir ses muscles. Mais Après, j'ai totalement la sensibilité et je peux contracter un peu mes quadris aussi.
Comment tu fais, la première fois que tu chausses des skis, que t'es comme ça, c'est à quel point c'est dur, tu vois, de commencer avec une jambe qui te répond qu'à moitié ?
Bah déjà, faut trouver sa technique pour pouvoir passer la jambe et quand même avoir un ski qui glisse. Et forcément, quand t'as pas la force dans la jambe, bah tu la retransmets la force sur le haut du corps, donc tout ce qui est bras, abdos, dos. Et un peu bas du dos, bassin, quoi, parce que pour quand même pousser un peu avec la jambe qui est en situation de handicap. Et du coup, en fait, c'était à passer la jambe, donc c'était un peu compliqué à trouver sa technique. Mais je forçais tellement avec les bras qu'au final, j'avais beaucoup plus mal aux bras que sur la jambe. Donc voilà, après, ça a développé un peu plus le haut du corps. Et petit à petit, en fait, en m'aidant ma musculature du haut du corps, j'ai réussi à la retransmettre dans mes jambes pour me trouver une technique appropriée avec mon handicap.
Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est vachement... J'ai regardé des vidéos de toi en train de skier et c'est vrai qu'on sent que tous les skieurs ont une technique particulière pour justement correspondre à leur handicap, tu vois, et à leur style. Ça met du temps à le trouver, tu vois, ce style, cette façon de faire, ça s'impose un peu à toi.
Du temps, oui, quand même, ça met quand même du temps. Après, quand tu travailles tous les jours pour justement pour trouver comment tu peux optimiser tout ça, c'est en travaillant vraiment là-dessus et en mettant des détails qui font que une fois que tu as trouvé ta technique, paf, c'est bon, c'est parti, et après tu n'as plus qu'à travailler dessus pour que ça devienne naturel. Mais c'est des heures et des heures et des heures de travail.
Ouais, bah j'imagine, ouais, j'imagine. Et tu peux plus, toi, skier, tu sais, quand on voit les athlètes valides être dans les rails, tu vois, et juste pousser avec les bras, ouais, en classique.
Le mouvement du classique, j'en fais un petit peu, mais dès que c'est trop raide, j'arrive plus à accrocher avec le fard d'accroche qu'on met sous les skis de classique. Du coup, j'arrive plus à accrocher. Donc, je suis vraiment que sur les bras. Après, je fais, par rapport à cette technique-là, je fais énormément de poussées, comme on peut voir quand on fait les relais au jeu ou au championnat du monde par équipe, où moi, je fais passage 1 et 3 parce que c'est un parcours en classique. Mais du coup, je le fais avec mes skis de skate et que en poussée, qu'avec les bras.
Et sinon, du coup, tu dois repasser en... Ça s'appelle comment, le pas où tu... Plus où les skis sont un peu en V et...
Le skating.
Le skating, ok. Donc le classique et le skating, c'est les deux pas, il y en a d'autres ?
Non, bah après c'est des pas différents, on va dire que comme en skating, tu as le combiné, tu as le pas de patineur, tu as le 1 temps, donc après c'est propre en fait. On va dire le 1 temps, c'est plus quand on est sur du plat montant, le combiné c'est plus quand on est sur du plat descendant, et après le décalé c'est vraiment quand on est dans des bosses. Après, okay. c'est des pas en fait en fonction du parcours qu'on va retrouver. Et en classique, donc il y a le pas alternatif. Donc c'est quand on fait un peu comme de la course à pied en fait, sauf qu'on fait glisser les skis, donc ouais, devant, derrière, l'un après l'autre. Après, il y a le pas de 1 aussi. Donc c'est un mouvement de jambe avec la poussée des deux bras. Et après, il y a la double poussée. Donc c'est que avec les bras.
Parmi toutes ces techniques, tous ces pas là, c'est lequel ton préféré ?
Moi, mon préféré, mon point fort, c'est le 1 temps en skating. J'arrive à transmettre, à être vraiment gainé et à être placé. Et vu comme j'ai assez de force dans les bras et le haut du corps et sur ma jambe valide, du coup, ça me permet vraiment d'aller vite et d'être bien puissant pour gagner un peu de vitesse.
Du coup, attends, le 1 temps, pour bien comprendre, c'est le... Vous poussez les deux bras en même temps, c'est ça ?
En fait, le 1 temps en skating, c'est on fait une poussée de bras avec une poussée de jambe. En même temps.
Ok, je vois.
Donc aussi bien à droite qu'à gauche.
Tu fais droite-gauche, tu pousses. Droite-gauche, tu pousses.
Non, ouais, en fait, tu pousses en même temps à droite et tu pousses en même temps à gauche. Donc, tes deux bras quand t'es sur la jambe droite, okay. Donc ta jambe pousse et tes bras aussi. Et pareil à gauche.
Ok, je vois très bien. Donc, je suis uniquement sur mon pied droit, mon pied gauche est en l'air. Je pousse, je pose le pied gauche, je lève le pied droit. Je pousse.
C'est ça. Oh, okay. En gros, c'est ça.
C'est pas dur à le faire, tu vois. À l'expliquer à l'oral, c'est dur. Hein,
ouais, en fait, c'est ça. À l'oral, c'est même moi qui pratique, c'est ultra compliqué à raconter parce qu'en fait, tu as envie de le montrer plutôt.
De le faire. Ouais, mais je suis comme toi, là, tu vois, j'essaye de me dire, OK, comment est-ce qu'on l'exprime, mais c'est pas facile. Puis on est, de toute façon, tous les sportifs, on se comprend, on est des sensoriels, on a besoin de faire, tu vois, on n'est pas toujours fait pour parler.
C'est ça.
Pour expliquer ça. Et à quel moment ça vient le biathlon dans tout ça? Ça te tentait direct
Pas du tout. Je connaissais forcément, hein, comme ancien pratiquant de ski de fond et aussi comme grand fan de ce sport et du biathlon. En fait, nous, on a la chance que quand tu rentres en équipe de France paralympique de ski nordique, en fait, tu as le biathlon qui est intégré. Et sauf que les étapes de Coupe du Monde, nous, en fait, c'est pas comme les valides où tu as le fond d'un côté et le biathlon de l'autre. Et des courses tous les week-ends. Nous, on part 15 jours à l'étranger. Et en fait, on a 3 courses en ski de fond et 3 courses en biathlon. Et okay. Vu comme c'est sur le même circuit, eh ben, du coup, on peut faire du ski de fond et du biathlon. Du coup, ils m'ont proposé de faire du biathlon. J'ai dit, bah ouais, carrément, ça peut être ultra intéressant. J'adore le tir et tout. Et du coup, je me suis lancé dans le biathlon et le ski de fond, du coup. Donc, sur les deux. J'ai dit, après, je verrai. Peut-être que je ferai que le ski de fond ou que le biathlon. Et au final, j'ai commencé à performer plus en biathlon qu'en ski de fond. Mais le ski de fond me plaisait encore parce qu'il y avait des courses où je pouvais être assez solide. Et du coup, j'ai dit non, je vais continuer les deux. Et au final, j'ai réussi à gérer mes efforts sur du ski de fond et sur du biathlon. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'être médaillé dans les deux disciplines. Et après, j'ai un palmarès qui est quand même plus élevé côté biathlon. Mais ce qu'ils font, je m'en sors encore très bien.
Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'était avec Vincent Defrane qui me disait que généralement, c'était peut-être ceux qui étaient un tout petit peu moins bons qui passaient sur le biathlon, ou ceux qui avaient envie de tirer, quoi, tout simplement, mais qui avaient chez les fondeurs quand même un niveau qui était légèrement au-dessus, selon lui. Tu vois. Je ne sais pas si toi, tu le constates aussi, mais... Après, tu as réussi à être médaillé dans les deux. Donc
En fait, l'effort est quand même différent entre un fondeur et un biathlète. Ouais. Le biathlète, en général, maintenant, on regarde chez les jeunes, il démarre quand même très tôt le biathlon aussi. Parce que tu as l'engouement aussi, grâce à Martin Fourcade, qui a donné un nouvel air, une nouvelle image de ce sport. Donc du coup, maintenant, tu as énormément de jeunes qui se retournent sur le biathlon. Après, l'effort, il est tellement différent que forcément, l'athlète fondeur sera beaucoup plus performant dans de la distance. Un biathlète, il sera forcément meilleur sur des distances, par exemple, comme du 2,5 km, 3 km. Parce qu'après, il a sa petite phase où il va tirer, donc tu re-emmagasines quand même de l'oxygène, un peu de repos pour aller tirer, pour aller skier. Donc en fait, l'effort, il est quand même différent. Après, si on mélange des fondeurs et des biathlètes, tu as quand même des biathlètes qui battent des fondeurs. Donc,
ouais, bien sûr.
T'auras toujours, ça reste quand même très proche. Donc physiquement, tu es quand même assez proche. Mais oui, les fondeurs purs et durs sont quand même un petit niveau au-dessus des biathlètes.
Et d'ailleurs, je me demandais, c'est quoi ta relation avec les biathlètes valides? Tu vois, on a connu plein de grands champions. Enfin, le biathlon en France, ça reste quand même un des sports... qui rafle tout, tu vois, où vous êtes trop fort. Même quand on revient en avant, effectivement, Vincent Defrane, il y a eu Raphaël Poiré, Martin, effectivement, là on voit, il y a Quentin, chez les Valides et tout, enfin, ça explose. Toi, t'as un palmarès de dingue. Je crois que t'es le deuxième sportif le plus médaillé, troisième, au jeu.
D'hiver ?
Ouais. Non, tout confondu, je crois. Tout confondu, je crois que t'es premier, non ?
Alors, tout confondu, le plus médaillé ?
Ouais.
C'est possible que le plus médaillé, tout confondu, je dois être, c'est possible, hein, peut-être deuxième ou troisième.
Je crois qu'il y a Aïssa, il y a une coureuse, Aïssa, j'ai oublié son nom, et peut-être Marie-Amélie Le Fur aussi, peut-être devant toi.
Non, c'est Marie, Marie Bochet a 9 médailles au jeu, moi j'en ai 10. Après, il y a une ancienne nageuse dans les années 80, je crois, 90, qui doit avoir 22 médailles au jeu. Mais okay. Après... je sais qu'en sport d'hiver, je suis l'athlète le plus médaillé, que ce soit olympique et paralympique. Après, tout confondu, je suis peut-être sûrement, on va dire, top 5.
Ouais, je suis
en vrai, je ne sais pas exactement.
On ira vérifier juste après. Juste après. Mais du coup, un peu, ma question, c'est, tu vois, qu'est-ce qui fait que, selon toi, que le biathlon français est si bon, tu vois, et quelle est peut-être, toi, ta relation, soit inspirationnelle, soit professionnelle, justement, avec les athlètes valides?
Forcément, déjà, comme tout gamin, t'es attiré par les grands champions. Moi, je sais que dans mon village, on avait Sylvie Bekaert, On avait Roddy d'Aragon, tous des anciens. Roddy et Sylvie ont été tous les deux vice-champions olympiques. Sylvie a été championne du monde. Elle a gagné un globe aussi en biathlon sur le biathlon sprint. Donc forcément, t'es toujours fan aussi. Et comme tu l'as dit, t'avais Raphaël Poiret, t'avais Vincent Defrane, t'avais Vincent Jay aussi. Donc forcément, t'es toujours attiré par ces grands champions. Maintenant, on a quand même des bonnes relations, nous, avec les biathlètes et les fondeurs aussi. Parce que dans notre région, on se côtoie quand même énormément. Et moi, je m'entraîne aussi parfois avec eux. Après, l'engouement qu'il y a en France, je pense qu'on a... On est très bien entraîné aussi, et je pense que maintenant, à ce jour, on a quand même des moyens qui nous permettent de pouvoir être bien entraîné et d'avoir des belles infrastructures aussi pour s'entraîner. Donc je pense que la France, maintenant, surtout dans nos sports d'hiver, on commence à être parmi les grandes nations, et ça fait plaisir aussi. Et du coup, en fait, tu arrives à retransmettre ça chez les jeunes, et les jeunes, ils commencent déjà de plus jeunes que nous, on a commencé. Donc forcément, quand tu vas arriver à 20 ans, tu peux déjà être pas mal quand tu as démarré assez vite dans ta jeunesse. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir partager tout ça aussi avec eux.
Ouais, bien sûr. Puis ça reste quand même un sport très... lactique, avec beaucoup d'anaérobic. Attends, chaque fois je confonds. C'est pas grave, mais en tout cas, beaucoup, très porté sur l'endurance. Il faut de la caisse. Hein, aérobic. Effectivement. Aérobic. Anaérobic, c'est quand tu sprints et que tu respires pas, justement.
Ouais, que t'es dans le dur, quoi. C'est quand tu commences à être vraiment haut cardiaquement, et c'est quand tu commences à être en acide lactique, ouais.
Exactement. Ensuite, le lactique, et ensuite l'aérobic, où là, ça devient de l'endurance plus pure et fondamentale.
Voilà.
T'as bien fait. C'est bon, j'ai trouvé le moyen mnémotechnique de me souvenir, alors que ça fait des années que je suis censé être dedans, quoi. Donc, ouais, non, c'est sûr que si tu commences un peu jeune, ça t'aide, quoi. Sur ce type de sport, avoir un cœur et des poumons qui sont formatés des très jeunes vers le sport, c'est quand même un avantage, je pense.
Ah oui, non, mais carrément, moi, je vois...
Faut leur donner envie de commencer.
Je regarde juste ma nièce qui a 7 ans. En fait, elle a jamais marché. Elle a toujours couru. On l'a jamais vu marcher. Elle fait que courir. Elle fait du ski de fond. Et en fait, elle a une caisse de folie. Moi, quand je la regarde skier et faire du vélo et de la course à pied à la maison, c'est juste incroyable. Et du coup, maintenant, tu te dis que potentiellement, quand tu regardes toute cette nouvelle génération arriver, tu te dis que s'ils perdurent et qu'ils continuent comme ça et qu'ils ont l'envie, derrière, tu te dis potentiellement, ça peut faire quand même des petites pépites. Ouais.
Ouais, bah c'est clair, c'est tout ce qu'on espère, on touche du bois en tout cas.
Exactement, et après c'est ça aussi notre rôle d'athlète et de champion ou de sportif de haut niveau, c'est d'aller à la rencontre aussi des jeunes et de leur raconter nous notre parcours et tout ça, ça leur met des étoiles dans les yeux et forcément derrière ça les booste un peu aussi à continuer et peut-être à se dire bah, nous aussi on voudrait être champion et du coup ils peuvent se dire bah, moi je connais et du coup, derrière, ils veulent aller un peu plus loin dans leur projet.
Bien sûr. C'est un des trucs qui t'a donné envie d'être porte-drapeau. Tu as mentionné tout à l'heure que c'était quelque chose que tu avais très, très vite eu en tête. C'était quoi la motivation derrière ça?
Parce que, en fait, d'être porte-drapeau, quand tu regardes les Jeux, c'est le premier athlète que tu vois. C'est une énorme reconnaissance de la nation, en fait. Et du coup, je sais pas, ça m'a toujours attiré d'arriver en tête du stade et d'être le capitaine et de porter la délégation, en fait. Mais je pense que ça a toujours été en moi, en fait, entre guillemets, ce petit mode leader.
Non, mais c'est marrant parce que tu sais, tu peux te dire, y a plein de trucs qui sont dans ton contrôle, tu vois, que tu peux te dire, ok, je vais faire mieux chaque jour, je vais essayer d'aller chercher un titre, machin. Porte-drapeau, c'est un peu plus une décision, un peu plus... politique, on va dire, je sais pas. D'ailleurs, je sais même pas comment ça choisit. Il y a un vote maintenant. Ça a changé là ces derniers temps. Il y a eu un vote.
Ouais, ça fait depuis les Jeux de Tokyo.
J'en ai parlé avec David Smetanin d'ailleurs.
Après, c'est forcément compliqué parce que pour être éligible ou être porte-drapeau, forcément, il faut déjà avoir fait quand même une belle carrière avant. Et moi, j'ai réussi à. Dans ma carrière, j'ai dit qu'un jour, je gagnerais des Coupes du Monde et j'ai gagné des Coupes du Monde. Et une fois que j'ai gagné des Coupes du Monde, j'ai dit je serais champion du monde. Donc j'ai fait en place d'être champion du monde. J'ai été champion du monde. Et une fois que j'ai été champion du monde, j'ai dit bah, maintenant, la seule médaille qui me manque, bah, c'est les Jeux. et je vais faire en sorte d'être champion paralympique. Donc j'ai travaillé énormément derrière pour être champion paralympique. Et une fois que j'avais gagné la Coupe du Monde, les championnats du monde et les Jeux, j'ai dit en fait, bah maintenant le seul truc qui me manque, c'est d'être porte-drapeau, et là j'aurais fait le tour. J'aurais tout fait dans ma carrière, et du coup j'ai fait en sorte de l'être. Donc pour être porte-drapeau, en fait, c'est en fonction soit du CNOSF ou du CPSF, donc Comité Olympique Sportif Français, ou du Comité Paralympique Sportif Français, qui mettent en place un critère. Donc pour nous, paralympiques, en fait, pour se présenter, pour être porte-drapeau, il fallait déjà être champion paralympique sur des Jeux précédents. Et du coup, moi, j'étais éligible, donc je me suis présenté en tant que porte-drapeau. Et après, c'est des votes en interne, donc c'est les athlètes qui votent pour lequel athlète voudrait le voir porte-drapeau, capitaine et... être en tête du cortège de...
C'est les athlètes, du coup, qui votent.
C'est les athlètes qui votent, ouais.
OK. Et vous êtes, je crois, 500, 600, non, il y a un nombre, je ne sais plus le nombre de votants, mais j'en avais parlé avec Ayodele Ikwesan, mais je ne me souviens plus exactement. Elle m'avait dit, elle m'avait soufflé le nombre.
Après, sur les Olympiques, ouais, je pense qu'ils sont un petit paquet. Nous, sur les paras, on devait être peut-être une vingtaine.
En candidat, tu veux dire ? Ou en votant ?
Non, en votant. Okay. En candidat, je ne sais pas du tout.
Ah, donc il n'y a que les athlètes qui participent, qui choisissent...
Non, c'est les athlètes de l'équipe de France. Parce qu'ils ont voté pour moi peu de temps après les championnats du monde, donc fin janvier. Là, on ne savait pas encore la totalité des athlètes qui allaient participer aux Jeux. Donc ouais. En fait, c'est vraiment les athlètes déjà qui peuvent un peu présélectionner, et peut-être les autres aussi à côté. Mais c'est vraiment un vote en interne, en fait. C'est les athlètes qui votent pour l'athlète. Donc, c'est une belle reconnaissance aussi des athlètes.
Bien sûr.
Parce que de se dire que c'est une reconnaissance aussi qu'ils te font, c'est très honorable aussi de leur part. Et moi, comme je l'ai toujours dit, je leur en remercie énormément, parce que ça a été quelque chose d'immense et d'incroyable en tant que humain et qu'athlète d'être porte-drapeau. Ouais.
Tu peux raconter ? Est-ce que tu as trouvé les moments qui ont eu incroyables, ça a changé des choses dans ta vie? Sachant que tu étais déjà champion olympique en plus.
Ouais, j'étais déjà champion paralympique, ouais, exactement. C'est tout ce que tu peux avoir autour, en fait, parce que en fait, tu as énormément d'athlètes qui viennent, de jeunes surtout, qui n'ont pas participé aux Jeux, qui viennent voir. Donc tu as un rôle aussi un peu important d'ancien et de chef, un peu de rôle d'apprendre à canaliser un peu leur énergie et de leur dire, en fait, les Jeux, c'est comme une Coupe du Monde, c'est les mêmes athlètes, sauf que oui, l'événement est plus grand, la médaille n'est pas la même, mais ta concurrence, c'est la même. Donc, en fait, c'est de discuter aussi avec eux pour les mettre bien dans leur approche des compétitions. Après, moi, c'est sûr que quand on est arrivé à la cérémonie d'ouverture, que j'ai vu le stade de Pékin, le Nid d'Oiseau, qui est juste extrêmement magnifique et qui est le plus beau stade du monde, je crois, encore à ce jour. Et d'arriver dans le stade, quand on te donne le drapeau dans les mains, tu prends déjà une charge émotionnelle qui est fabuleuse. Et donc, quand tu arrives vraiment à l'intérieur du stade et qu'ils annoncent ton pays, et que toi, tu rentres comme ça dans le stade et que tu vois toute la foule, et que tu es vraiment au milieu du stade à tourner le drapeau, que tu as tes coéquipiers derrière, tu te retournes aussi envers eux, et tu as énormément d'émotions que moi, j'en avais tellement que je me retenais quand même pour ne pas verser ma petite larme, parce que j'ai dit que je n'avais pas passé non plus ma vie à pleurer lors des Jeux. Donc, du coup, c'est le seul moment où je n'ai pas, versé ma petite larme, mais j'aurais pu. Ouais.
Émotion de dingue, beaucoup de bonnes choses. La boucle est bouclée, c'était ton rêve de gamin. Est-ce que, peut-être, petite question là, après ces Jeux aussi où tu as quand même... Tu as eu deux médailles d'or, deux d'argent. Est-ce que ça a été encore un tremplin pour ta carrière, tu vois? Est-ce que ça te donne encore des ailes pour un prochain challenge? Est-ce que la vie, elle change après avoir été porte-drapeau?
Bah oui, forcément, il y a tout qui change, mais c'est aussi une immense fierté de faire partie de cette famille d'athlètes qui ont été porte-drapeau aussi. Après, c'est un peu plus de reconnaissance aussi, on va dire, sur l'athlète. C'est aussi un accomplissement personnel et un accomplissement aussi pour toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ma carrière sportive, dans ce projet aussi de porte-drapeau, que ce soit les partenaires ou la famille ou d'autres personnes aussi. Après, sur la suite, bah forcément, hein, je continue encore 4 ans, je vais prendre la retraite dans 4 ans, après les Jeux de Milan-Cortina.
C'est prévu ?
Oui, c'est prévu que je fasse Milan-Cortina. Okay. Après, je prendrai ma retraite à Milan. Ouais, voilà.
Okay. Mais c'est, au moins, c'est bien, c'est clair que ça soit annoncé comme ça, quoi. Ça fait combien de temps que tu as pris la décision ?
Que j'arrêterai à Milan, je crois que ça fait très longtemps. Mais après, c'est vrai qu'au tout début, tu te dis, je vais faire, plein de jeux. Où j'étais prêt, en fait, après Pyeongchang, à me dire, je veux encore faire 2 Paralympiades. C'est vrai que ça a été quand même compliqué après Pékin de se dire, je repars pour 4 ans. Mais j'étais tellement content de mes jeux et de mon parcours que je me suis dit, faut que je finisse à Milan et ce sera chouette.
Ouais, bah, je pense que c'est un bon dernier challenge. Et puis tu peux peut-être un tout petit peu lever le pied, tu vois, être un peu plus cool.
C'est un peu prévu.
Ça marche. Bon, je sais que tu as d'autres projets futurs, mais du coup, je ne sais pas si on peut en parler. Mais ça serait quoi tes rêves après ta retraite ? De quoi tu as envie
Déjà, il y a énormément de choses parce que nous, sportifs de haut niveau, on part quand même souvent aussi à l'extérieur, que ce soit en stage ou les compétitions. Donc, ce sera déjà aussi de profiter de ma famille, de passer plus de temps avec ma compagne aussi. Après, y a sûrement d'autres projets. J'ai plusieurs projets qui me trottent dans la tête. Ce serait aussi de rester au sein de l'armée parce que je fais partie de l'armée de champions et j'ai aussi envie de travailler avec les blessés militaires.
C'est important pour toi, ça ?
Oui, forcément, parce que le milieu militaire m'a toujours intéressé. Je suis très fier de faire partie de cette institution. Pour moi, les blessés, ils ont énormément servi la France, notre pays. Le sport, moi, m'a changé ma vie et j'ai envie qu'eux découvrent aussi tout le milieu du parasport. Et je pense qu'à ce jour, c'est des athlètes qui sont encore physiquement incroyables, même s'ils sont en situation de handicap. Mentalement, c'est des machines. Et du coup, je pense qu'on peut aussi les relancer dans le sport et leur faire découvrir ce milieu. Et peut-être qu'eux aussi, ça va les orienter dans un beau parcours, une nouvelle vie, comme on peut dire, et peut-être les rendre encore plus heureux.
Bon, bah écoute, très chouette. Et en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Elle ressemble à quoi, tes journées en ce moment ? Là, c'est un peu la fin de la saison. On est sur un entre-deux. Comment est-ce que tu t'occupes ?
J'ai eu pas mal de médias, de rencontres avec des enfants dans des écoles, quelques petits séminaires au sein d'entreprises. Je reprends l'entraînement là maintenant, donc vélo, un peu de ski roue, muscu, du tennis avec les potes et je suis en plein emménagement aussi avec ma compagne.
Donc plein de beaux projets.
Exactement.
Trop cool. On arrive un petit peu à la fin et du coup j'ai des petites questions que j'aime bien poser aux invités. La première c'est de savoir c'est quoi une journée parfaite pour toi.
Ma journée parfaite c'est de me lever heureux, de pouvoir faire du sport, de manger sainement et d'être à l'extérieur à faire du sport et que tout se passe bien.
Simple mais efficace.
Voilà, simple et efficace.
Ça marche. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ton assiette les soirs de fête ?
En fait, je suis...
Ton plat préféré ?
Je suis pas difficile. Je mange de tout, sauf au fromage où ça peut être compliqué. Sur le fromage, je mange que les pâtes cuites. Donc, tout ce qui est comté, Beaufort, Abondance... Et fondue raclette. Après, je mange pas de reblochon, malheureusement. Pourtant, je suis né dans une ferme qui fabrique du reblochon. Donc voilà, mais voilà, ça reste quand même un excellent fromage pour tous les amoureux de la tartiflette aussi.
Tu peux manger.
Non, cuit, je le mange pas non plus.
Ah, tu manges pas non plus. Okay.
Non. Après, j'adore tout ce qui est cuisine japonaise aussi, mais. En vrai, si j'ai envie de me faire plaisir de quelque chose, je ne vais pas m'interdire de manger. Je suis tellement ouvert sur la cuisine que je n'ai pas, on va dire, vraiment de spécialité que je pourrais manger tous les jours, en fait.
C'est quoi ton film préféré ?
Y en a énormément, mais après, j'aime énormément l'histoire, les lignes vertes.
C'est vrai ? Qu'est-ce qui t'a touché dans l'histoire ?
Tout, en fait, le parcours du prisonnier qui est innocent et qui est en plus une histoire vraie. Donc moi, je suis un grand fan de séries et de films dont c'est tiré d'histoires vraies. Donc voilà, c'est vraiment un parcours qui est fou, en fait.
Ouais, c'est vrai qu'il est, il est génial ce film, ouais. Il est incroyable. Et il perd pas, tu vois, malgré les âges, moi je le revois.
Ouais.
J'ai dû le revoir, je pense, il y a 2-3 ans. Et j'ai toujours autant, enfin, je trouve ça toujours autant d'actualité, c'est, ça passe toujours aussi bien, quoi. Dans ta playlist, on retrouve quoi ? T'écoutes de la musique d'ailleurs quand tu skis ?
Quand je skie, rarement. Plus si j'ai vraiment envie de m'évader un peu plus. Mais sinon, non, j'aime bien entendre la nature, le son du vent contre les feuilles ou le glissement des skis contre la neige ou des bruits de chants d'animaux dans la forêt. Donc, je suis pas quelqu'un qui va vraiment écouter de la musique quand je fais du ski. Après, sinon aussi, j'écoute énormément de musique. J'écoute de tout, du reggae comme du rock, comme de la pop. Ouais, j'écoute de tout.
Vas-y, bah, je t'embête pas longtemps avec mes deux dernières petites questions. Est-ce que t'as un mantra ou est-ce qu'il y a une phrase, enfin un mantra, une phrase, je vois que tu fais les gros yeux, mais... Non, un mantra, c'est... Est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes souvent, tu vois, pour te donner de la motive, peut-être les jours où t'as peut-être la tête dans les pompes, une phrase que t'aimes bien te répéter pour te donner de la force ?
Bah, moi, j'avais une devise, surtout, c'était entraînement difficile, course facile, même si on sait que les courses, c'est jamais vraiment facile. Mais c'est vrai que de travailler dur à l'entraînement, ça libère aussi pour les courses. Après, forcément, quand à l'entraînement, parfois, ça peut être dur. Bah, du coup, je me dis, pourquoi tu fais ça ? Et du coup, derrière, je me dis, allez, si tu veux être champion du monde, faut passer par la douleur à l'entraînement. Et du coup, voilà, je pense à des grosses échéances qui peuvent derrière me booster un peu plus, justement, aller au plus profond de moi-même lors des entraînements.
La toute dernière question, c'est de savoir quels sont les deux athlètes que tu me recommandes d'aller interviewer pour un prochain podcast. J'aimerais une femme et un homme pour respecter au maximum la parité. Ça peut être d'ailleurs des athlètes paralympiques ou des athlètes valides, c'est comme tu préfères.
De n'importe quelle discipline ?
N'importe quelle discipline.
En garçon, je pense vraiment au judoka Guillaume Chen, qui est quand même une très belle personnalité et qui est un bon athlète aussi, okay. qui est champion olympique de judo par équipe. Et après, chez les filles, une petite jeune là, qui est en pentathlon moderne, Rebecca Castodi, qui est vraiment une belle personnalité aussi, que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps. Et c'est une chouette nana, ouais.
Ok. Bon, c'est deux personnes, j'imagine, qui ont le cœur sur la main.
Exactement.
Comme toi, donc avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup pour ce moment. C'était hyper cool de pouvoir reparler un peu de tout ça, de retracer ton parcours avec le temps, tu vois, et de bien comprendre. Et j'espère que ça donnera de la force, tu vois, en tout cas, à plein de jeunes là, qui sont dans les filières de performance, à plein de jeunes qui sont peut-être atteints de handicap. D'ailleurs, peut-être aller à une dernière question pour la fin. Ça serait, qu'est-ce que tu dirais à un jeune ado, tu vois, à qui il est arrivé un accident, qui se retrouve en situation de handicap, tu vois, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, tu vois ?
Que déjà il fasse ce qu'il a à faire, que la résilience est quand même importante de se reconstruire soi-même, mais que le sport c'est extrêmement chouette dans ce milieu. Moi, ça m'a ouvert énormément de portes, un changement de vie total. Quelque chose de incroyable. J'ai vécu des moments extraordinaires que j'aurais jamais vécu dans ma vie, et qu'en fait faut que les jeunes en situation de handicap ou moins jeunes, hein, parce qu'un accident peut arriver à n'importe quel moment au cours de la vie, mais faut foncer, ouais, faut pas se mettre de barrière. En fait, avec n'importe quel handicap, tu peux pratiquer un sport, donc faut foncer à bloc. Ouais.
Bah, je suis d'accord avec toi, le sport c'est une très belle école de la vie, et je pense que tout le monde devrait y goûter, tout le monde devrait passer par cette école en tout cas, et effectivement ça change des vies et ça ouvre des voies, donc j'espère que les gens retiendront ce message-là en tout cas. Et merci beaucoup Benjamin pour ce moment, c'était très cool, merci pour ton accueil et j'espère à très bientôt.
Merci à toi, et puis avec plaisir de se rencontrer encore et encore dans des mois ou des années futures.
Ben, grand plaisir. Salut.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.